Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici La Voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements informés, entre autres. Indonésie fait part de ses efforts pour augmenter la production de riz biomasse au Japon. Ambassadeur d'Indonésie a souligné les réalisations de la coopération commerciale avec le Kenya. Conférence sur les tunnels 2024 à Bandung a réuni 200 participants de divers pays. Bappenas lance une plateforme d'investissement pour les ODD. Longueur de l'aéroport IKN atteint 2200 mètres. OJK étend l'accès financier des citoyens grâce au mois de l'inclusion financière 2024. Hezbollah empêche les troupes israéliennes d'entrer sur le territoire libanais. Bonjour, je vais te voici les nouvelles en complet. L'Indonésie a présenté sa stratégie visant à accroître la production de riz et l'utilisation de la biomasse dans le cadre des efforts de durabilité agricole lors de la 5e réunion du Conseil consultatif scientifique international pour la stratégie Midori au Japon. Le chef de l'Agence de normalisation des instruments agricoles du ministère de l'Agriculture, Fajri Jufri, a déclaré dimanche qu'à cette occasion, l'Indonésie a expliqué l'importance de la culture du riz de raton et des variétés de riz à maturation précoce qui peuvent augmenter la productivité des terres. Le contrôle des plants de riz sont également des points de discussion importants. À cette occasion, Fajri a également évoqué l'utilisation de la biomasse comme combustible mixte avec le charbon pour la production d'électricité, notamment dans les zones à faible fertilité des sols. L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Kenya, Mohamed Heri Saripudin, a souligné la coopération accrue entre l'Indonésie et le Kenya lors d'une réception diplomatique tenue vendredi dernier. Dans sa déclaration de dimanche, Heri a déclaré que divers accords bilatéraux avaient été mis en œuvre, dont 15 mémorandums d'accord MOU signés lors de la visite du président Joko Widodo au Kenya en août 2023. Heri a également souligné le succès du deuxième forum Indonésie-Afrique IAF à Bali et la deuxième expo Indonésie-Nairobi Indonex qui a eu lieu en septembre sont une preuve évidente de la collaboration entre les deux pays. Lors de l'événement, le ministre kényan des Mines et de l'Économie Bleue Hassan Ali Joho a salué la conférence Asie-Afrique de 1955 comme une étape importante dans la coopération Sud-Sud. Hassan a également apprécié la mise en œuvre du deuxième AIF qui a encouragé une coopération concrète dans divers domaines tels que l'énergie verte durable, l'économie bleue, le développement des vaccins et la gestion du changement climatique. La conférence internationale Tunnel 2024 a réuni plus de 400 participants de différents pays. La conférence qui s'est tenue à Bandung du 2 au 4 octobre a discuté du développement des technologies durables dans les tunnels et les souterrains. Le président de Tunnel 2024, Paulus Pramono Harjo, a déclaré que cette conférence renforce la collaboration mondiale dans le développement des infrastructures de tunnels, ce qui est important pour des secteurs tels que l'exploitation minière et les transports. Paulus, qui est également professeur de géotechnique à l'Université de Parahyangan, a déclaré que la technologie des tunnels est très importante dans divers aspects des infrastructures civiles, y compris l'exploitation minière, et continue de se développer parallèlement aux discussions lors de forums internationaux tels que la conférence des tunnels de 2024. Discute du contrôle des mouvements de terrain, de l'atténuation ainsi que de la gestion des risques liés à la construction de tunnels, en mettant l'accent sur les solutions durables. Le ministère de la Planification du Développement National, l'Agence nationale de planification du développement PPN BAPENAS, a lancé la plateforme d'investissement des ODD, ou bien Objectif de développement durable, afin de faciliter l'investissement durable pour soutenir la réalisation des cibles des ODD en 2030. Adjoint Fifi Yulaswati, chargée des affaires maritimes et des ressources au ministère de planification du développement national de BAPENAS, a déclaré dimanche que l'Indonésie avait besoin de 6 années supplémentaires pour remplir ses engagements mondiaux visant à atteindre les objectifs des ODD d'ici 2030. Yulaswati a déclaré que jusqu'à présent, la réalisation de l'Indonésie était de 62% sur 224 indicateurs, ce qui signifie qu'elle occupe la première place parmi les pays à revenus intermédiaires supérieurs. Il a expliqué que l'un des défis majeurs pour accélérer ses objectifs est la collecte de financements durables. Pour cette raison, la plateforme d'investissement ODD peut aider à collecter des sources de financement ainsi qu'à rassembler divers projets et acteurs philanthropiques. Le ministre des Transports Budikarya Sumadi a déclaré que l'aéroport de l'IKN Nusantara, dans la capitale d'État de Nusantara IKN du Kalimantan Oriental, mesure désormais 2200 mètres de long et 45 mètres de large. Lors de l'inspection de l'aéroport dimanche, Budikarya a déclaré qu'actuellement le ministre du PUPR avait TPC, la zone de la piste avec pour objectif d'achever le 10 octobre 2024. Budikarya a déclaré que l'avion présidentiel de type RJ-85 avait atterri avec succès à l'aéroport de Nusantara. Il a poursuivi en disant qu'une fois qu'elle sera devenue plus épaisse et plus large, la piste de l'aéroport sera prête à accueillir le plus gros avion présidentiel, Boeing Business Jet 737-800. Le ministre des Transports Budikarya a également assuré que la construction du terminal était conforme au Grand Conseil d'IKN, à savoir axé sur la nature et respectueux de l'environnement. L'autorité des services financiers OJK étend l'accès aux finances publiques grâce aux activités du mois de l'inclusion financière BIK 2024. Mahendra Siregar, président du Conseil des commissaires de l'OJICA, a déclaré lundi qu'une sculpture et une inclusion financière plus large devraient améliorer le bien-être de la communauté et renforcer l'économie nationale. OJICA souligne également l'importance de la collaboration pour accroître un accès financier plus équitable dans le cadre des efforts visant à réaliser une Golden Indonesia 2045. OJICA vise à accroître l'accès aux produits et services financiers à 8,7 millions au cours des activités BIC 2024. En outre, BIC 2024 vise à se développer. Le financement du programme d'inclusion avec pour objectif de réaliser jusqu'à 3100 activités et 2 millions de participants dans toute l'Indonésie. Les combattants du mouvement Hezbollah ont empêché les troupes israéliennes de franchir la frontière libanaise près de la colonie israélienne de Manara. Spoutnik a rapporté dimanche que le service d'ambulance israélien était en train d'évacuer les blessés et les morts du site de l'attaque. Une autre tentative israélienne de traverser la frontière a également été contrecarrée par les Hezbollah dans la colonie frontalière de Blida. Les Hezbollah et Israël sont impliqués dans une guerre transfrontalière depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza, qui a fait plus de 41 800 victimes à la suite des attaques du groupe palestinien Hamas en octobre de l'année dernière. La communauté internationale a averti qu'une attaque israélienne contre le Liban pourrait transformer le conflit de Gaza en une guerre régionale plus large. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Après un an de résistance du Hamas, le conflit au Moyen-Orient s'étend ». Le 7 octobre 2024 marque le premier anniversaire de l'attaque des militants palestiniens Hamas contre Israël. Cette attaque est une histoire de résistance des groupes combattants palestiniens aux atrocités israéliennes qui durent depuis des décennies. Le conflit entre Israël et les pays du Moyen-Orient a commencé depuis la déclaration d'indépendance d'Israël en 1948 et est profondément ressenti par la population palestinienne qui vit aux côtés d'Israël. Depuis ce moment-là, Israël a continué de tenter d'étendre son territoire en s'emparant et en contrôlant progressivement le territoire palestinien. C'est ce qui a déclenché le conflit prolongé entre la Palestine et Israël. Israël a ensuite répondu à grande échelle à l'attaque du Hamas. Des frappes aériennes et une mobilisation de troupes terrestres ont été lancées sur Gaza, considérée comme la base de commandement des militants du Hamas. Tout au long de l'année, les forces de défense israéliennes, FDI, ont lancé des attaques qui ont non seulement visé des militants du Hamas, mais ont également tué des civils, des enfants et des femmes. Les attaques israéliennes ont également visé des hôpitaux, des camps de réfugiés, des mosquées, des marchés et des établissements d'enseignement. Des cibles qui ne devraient pas être touchées en cas de guerre. Plus de 41 000 habitants de Gaza sont morts à cause des attaques incessantes et aveugles d'Israël. En fait, presque tous les habitants de Gaza ont été contraints de fuir en raison du manque de médicaments, de nourriture et d'eau potable en raison du blocus. Ce qu'Israël a fait a reçu des réponses de la part du monde. L'ONU, au cours de diverses sessions et déclarations, continue de faire pression pour la réalisation d'un cessez-le-feu. Même la Cour internationale de justice, CIJ, a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures pour prévenir les génocides contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, ainsi que pour assurer la distribution de l'aide humanitaire à la population de la région. Ni la réaction du monde, y compris celle de l'ONU, ni la décision de la Cour internationale de justice n'ont incité Israël à mettre fin à ses actions inhumaines contre Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU, censé avoir le pouvoir d'arrêter les guerres au Moyen-Orient, n'a rien fait. Aucun accord n'a été trouvé au Conseil de sécurité, qui est l'institution la plus influente de l'ONU concernant la résolution du conflit palestinien. En conséquence, de nombreuses réponses ont émergé qui mettaient en doute l'engagement du Conseil de sécurité en faveur de la paix mondiale et encourager même les efforts de réforme au sein de ce Conseil. Beaucoup de gens pensent peut-être que le conflit à Gaza a été provoqué par l'attaque du Hamas il y a un an. Cependant, en réalité, l'attaque était une accumulation de colère due aux efforts continus d'expansion territoriale d'Israël et aux efforts de provocation continue. Un an après l'attaque du Hamas, la communauté mondiale a constaté que cette guerre s'est étendue au Liban. Le Hezbollah basé au Liban a décidé de soutenir la résistance du Hamas en Palestine en lançant des attaques du côté israélien. D'un autre côté, Israël a également répondu aux attaques terrestres et aériennes du Hezbollah, faisant des victimes, notamment des civils. De nombreux partis, dont l'Indonésie, considèrent la solution à deux États entre Israël et la Palestine comme la seule solution pour la paix au Moyen-Orient. Cela a également été déclaré dans la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais la mise en œuvre de cette solution est encore très loin des attentes. C'est Zurita, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui avec moi Audrey. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec le 7 octobre 1950, où Mère Teresa fondait les missionnaires de la charité. Le 7 octobre 1950, avec la permission du Vatican, Mère Teresa fonde à Calcutta un nouvel ordre appelé les missionnaires de la charité. Cet ordre vise à aider les plus pauvres et les plus marginalisés, dont les sans-abri, les pros et ceux qui souffrent sans amour ni soin. Commençant avec 13 membres, les missionnaires de la charité sont maintenant devenus des milliers de sœurs et de frères effectuant des missions dans plus de 100 pays. Ils ont fondé des refuges, orphelinats et des centres de soins pour les malades et les abandonnés. L'une des premières missions de mère que Teresa a fondée, un hôpital pour mourants à Calcutta, un endroit où les gens pourraient mourir dignement selon leurs croyances ou leur religion. Chers amis, passons à l'événement du 7 octobre 2001. Les États-Unis envahissent l'Afghanistan. Le 7 octobre 2001, les États-Unis ont commencé leur invasion de l'Afghanistan en réponse aux attentats terroristes du 11 septembre perpétrés par le groupe Al-Qaïda. Cette guerre faisait partie de la campagne de guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis. Est soutenu par les Alliés. L'objectif principal de cette invasion était de capturer le chef Al-Qaïda Osama Bin Laden et de punir les talibans qui ont donné refuge au groupe, bien que le régime taliban ait été renversé avec succès. Osama Bin Laden n'a été capturé et tué qu'au Pakistan en 2011. En 2021, les États-Unis ont annoncé leur retrait d'Afghanistan. Depuis, le régime taliban, qui n'a jamais été complètement écrasé, a repris le contrôle de l'Afghanistan. Chers amis, nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec les événements du 7 octobre 2023. Les combattants du Hamas en Palestine ont attaqué Israël. Le matin du 7 octobre 2023, le groupe de combattants palestiniens Hamas a lancé une invasion massive d'Israël depuis la bande de Gaza. Des rangées de combattants palestiniens ont franchi la barrière entre Gaza et Israël et se sont frayés en chemin à travers le poste frontalier de Gaza. La Hamas a également tiré 5000 roquettes et a baptisé cette opération d'inondation d'Al-Aqsa. Plus d'un millier de personnes ont été tuées, des milliers ont été blessées et des centaines de personnes sont devenues des otages à la suite de cette attaque. Cette attaque a été une attaque de la résistance du Hamas aux atrocités d'Israël qui continue de pousser à l'expansion territoriale en Palestine. Cette attaque a reçu une réponse israélienne avec une déclaration de guerre et le lancement de l'opération Iron Sword au nord de la bande de Gaza en Palestine. Israël a mené des attaques d'artillerie aérienne ciblant de nombreux endroits, notamment des bâtiments résidentiels et des hôpitaux, jusqu'à un an d'occupation israélienne contre l'attaque. Victimes civiles, les morts palestiniens ont atteint plus de 41 000 personnes et ont poussé presque tous les habitants de Gaza à fuir en raison du manque de nourriture, de médicaments et d'eau potable en raison du blocus. Même si divers efforts ont été déployés par divers partis jusqu'à présent, il ce n'est pas un signe que la guerre va s'arrêter. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui. Mengapa kau
Semakin ku menjauh, semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Semakin menghujam semua tentangmu.
Voilà la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Sixième l'antenne pour la musique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est L'OMI désigne officiellement les îles Nusa Penida et Gilimatra comme zones maritimes particulièrement sensibles. L'Organisation maritime internationale OMI a officiellement désigné les îles Nusa Penida et Gilimatra dans le détroit de Lombok en Indonésie comme zones maritimes particulièrement sensibles PSSA. Henry Ginting, directeur de la navigation et des affaires maritimes à la Direction générale des transports maritimes du ministère des Transports, qui est également chef de la délégation indonésienne, a déclaré que la désignation a été officiellement approuvée par l'OMI lors de la séance de clôture de la 82e réunion du Comité de protection du milieu marin, MOPC, au siège de l'OMI à Londres. Citant un rapport d'Antara, vendredi 4 octobre, Ginting a noté que vendredi 4 octobre, les îles Nusa Penida et Gilimatra dans le détroit de Lombok, Indonésie, ont été officiellement désignées comme zones maritimes particulièrement sensibles par l'Organisation maritime internationale, OMI. Il a souligné que cette réalisation était le résultat des efforts diligents de la délégation indonésienne dans la préparation de la proposition et dans la satisfaction des exigences de documentation nécessaires. Hendri Ginting expliquait que la désignation de Nusa Penida et Jelimetra comme zone maritime particulièrement sensible marque une étape importante pour l'Indonésie. Elle démontre également l'engagement et la collaboration entre le gouvernement indonésien et la communauté internationale pour renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement maritime. Il a noté que la mise en œuvre de la zone maritime particulièrement sensible en Indonésie pourrait sensibiliser les parties prenantes concernées, tant internationales que nationales, à l'importance de préserver l'environnement marin. En outre, Ginting a révélé que la proposition de l'Indonésie était bien accueillie par les États membres de l'OMI, car elle a fourni des données complètes étayant la biodiversité, les conditions écologiques, les aspects socio-économiques et culturels des îles Nusa Penida et Jelimetra. Hendri avait déjà mentionné qu'avec l'approbation de la proposition de l'Indonésie, ces deux zones deviendraient les premières Indonésies à être désignées comme zones maritimes particulièrement sensibles. Elles pourraient servir de projet pilote pour la désignation d'autres zones potentielles en Indonésie comme zones maritimes particulièrement sensibles. Il a ajouté que cela est conforme à l'engagement de l'Indonésie à préserver ces zones vulnérables des impacts négatifs du transport maritime international. Ces auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja. Mengantikanmu
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Sejurtak, Loksado est un sous-district de la résidence de Hulu Sungai Selatan dans la province de Kalimantan du Sud. Il se trouve à environ 185 km de Banjarmasin, la capitale provinciale du Kalimantan du Sud. Loksado est situé dans les montagnes Meratus et est l'une des zones touristiques naturelles avec les attractions culturelles du peuple Dayak Bukit, la tribu indigène des montagnes Meratus. Pour le tourisme de nature lui-même, à Loksado, il y a 8 belles cascades, à savoir cascade Riam Barajang, cascade Riam Anai, cascade Rampah Menjangan, cascade Kilat Api, cascade Rampah Lambin, cascade Benyat Anggang, cascade Rampah Jelatang et cascade Tinggiran Ayam. Mais cette fois, nous vous présentons l'une des 8 cascades qui est la principale destination de Loksado, à savoir la cascade Aratai. Sejurita, pour vous rendre à la cascade Aratai qui est assez éloignée, vous pouvez utiliser des véhicules privés ou le transport en commun. Pour ceux qui utilisent le transport en commun, choisissez simplement le transport vers Kandangan, la capitale du district de Hulu Sungai Selatan, ensuite de Kandangan à Loksado, peut-être pris en environ une heure. Après votre arrivée à Loksado, le voyage continue jusqu'au village Aratai, situé à environ 20 km. De Loksado au site d'attraction touristique de la cascade Aratai, seuls les véhicules à deux roues peuvent passer. Le terrain parcouru est également assez extrême. La route de 9 km présente une pente d'environ 60 degrés. La route mesure à certains endroits moins de 1,5 m de large avec un ravin ou une rivière sur un côté. Pour ceux d'entre vous qui n'apportent pas de véhicule, vous pouvez louer une moto ou utiliser un service de taxi-moto. L'emplacement de stationnement des véhicules est à environ 100 mètres de la cascade. Depuis le parking de la cascade Aratai, vous devez marcher et traverser un pont suspendu pour atteindre le guichet d'entrée. Vous devez payer un billet d'entrée pour attraction touristique de la cascade de 5 000 rupiah par personne. En arrivant à l'endroit où se trouve la cascade, vous serez certainement émerveillé par sa beauté. La cascade Aratai a une hauteur d'environ 20 mètres et comporte 3 niveaux. Le débit d'eau est assez important. Il est donc très difficile de nager autour de la cascade, surtout quand il pleut. Pendant la saison sèche, le débit d'eau n'est pas trop important. Sous la cascade, il y a un lac qui peut être utilisé pour se baigner ou simplement pour se tremper. Pour la baignade, les organisateurs de voyage fournissent des pneus aux visiteurs. Pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas se baigner dans les eaux claires de la cascade Aratai, vous pouvez prendre des photos avec la cascade en arrière-plan. Le site touristique de la cascade Aratai est ouvert tous les jours de 7h à 17h heure locale. Sur ce site touristique, il y a un belvédère pour se reposer tout en profitant de l'atmosphère. Il y a aussi un endroit pour se changer. Pour ceux d'entre vous qui veulent passer la nuit, il existe de nombreuses auberges autour de Loksado. C'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre La cascade Aratai à Kalimantan du Sud. Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Seharusnya hatiku berbunga ketika kau katakan cinta. Seharusnya hatiku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku merasa harus bagaimana, diriku tidak mencintaimu. Maafkanlah aku, maafkan diriku yang tak bisa menerima cintamu. Maafkanlah aku, maafkan diriku yang membuat kecewa di hatimu. Lupakanlah saja diriku. Seharusnya hatiku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku rasa harus bagaimana, diriku tidak mencintaimu.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Parlons l'Indonésien qui vous présente des phrases et du vocabulaire indonésien et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Bima. Di Bima signifie à Bima. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Bolehkah. Je répète, Bolehkah signifie puis-je. C'est une conversation entre Chris, un vlogueur australien, et un habitant du district de Bima, propriétaire d'un bâtiment traditionnel au village touristique de Maria, district de Bima. Après avoir regardé le cours des chevaux, Chris a visité le village touristique de Maria pour voir les bâtiments traditionnels. Chris a demandé au propriétaire la permission d'entrer dans le bâtiment traditionnel. Écoutons la conversation.
Unik sekali rumah ini.
Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
Bolehkah saya masuk?
Boleh. Mari, silakan.
Je vais vous présenter une conversation dont le titre est « Bolehkah ?» Bolehkah signifie « Puis-je ?» Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Bolehkah ? Bolehkah signifie « Puis-je ?» Saya. Saya signifie « Je ». Masuk. Masuk, en français, entrer. Bolehkah saya masuk? Bolehkah saya masuk signifie puis-je entrer? Unique. Unique, en français, très unique. Bangunan. Bangunan signifie bâtiment. Objet wisata. Objek wisata signifie les attractions. Dans la conversation, vous entendez bolehkah saya masuk? Bolehkah saya masuk signifie puis-je entrer? Dans cette phrase, il y a le mot bolehkah. Bolehkah signifie puis-je qui est utilisé comme interrogatif pour marquer une demande d'autorisation. Pour exprimer une demande d'autorisation, le mot bolehkah. Bolehkah signifie puis-je, suivi d'une expression qui précise l'activité à réaliser. Dans cette énoncé, le mot bolehkah. Bolehkah signifie puis-je, suivi de l'expression que saya masuk. Saya masuk signifie j'entre. Les mots bolehkah saya masuk signifie puis-je entrer énonce une question pour demander la permission d'entrer dans le bâtiment. Un autre exemple. Écoutons un exemple d'utilisation du mot bolehkah. Je répète, bolehkah signifie puis-je pour marquer une demande d'autorisation dans une autre phrase. Bolehkah kami datang ke perayaan itu? Bolehkah kami datang ke perayaan itu? Signifie pouvons-nous venir à la fête? Bolehkah saya duduk di kursi ini? Bolehkah saya duduk di kursi ini? Signifie puis-je m'asseoir sur cette chaise? Le village de Maria est un village touristique situé au district de Wawo, la région de Bima, la province de Nusa Tenggara de l'Ouest. À ce village touristique se trouve une maison traditionnelle, on appelle Umalenge. En langue mbojo, Umalenge signifie une maison avec un toit haut et conique. Dans le temps ancien, Umalenge était utilisé comme résidence et lieu de stockage de produits agricoles. Avant de terminer, parlons l'indonésien d'aujourd'hui. Écoutons encore une fois la conversation.
Unik sekali rumah ini.
Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang, bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
Bolehkah saya masuk?
Boleh. Mari, silakan.
Chers amis, voilà l'émission de Parlons l'indonésien d'aujourd'hui, dont le sujet est bolehkah. Bolehkah signifie puis-je. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku. Walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cinta.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Magazine Musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson Kroncong intitulée Menikahimu, chantée par Kroncong Kremes. Chers amis, cette chanson créée par Yofi Widianto a été popularisée par le groupe de musique Kaitna, sorti en 2002. Cette chanson convient très bien comme chanson romantique au couple sur le point de se marier. Cette chanson ne parle pas seulement de tomber amoureux, mais aussi d'engagement, de loyauté et du cheminement de la vie ensemble. Bon, chers auditeurs, voici Kroncong Kremes va chanter une chanson Kroncong intitulée Menikahimu. Bonne écoute.
Jangan
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.